Bien, ce matin, j'aimerais. Bon, il y a quelque temps de cela, on avait abordé le sujet de la prière, n'est-ce pas? On enseigne-nous à prier dans Matthieu chapitre 6. Nous avions vu l'enseignement que Jésus apporta à ses disciples sur la prière. Alors, je sais que beaucoup de gens prient Matthieu 6 comme une prière, ils répètent exactement les mêmes mots, mais nous comprenons bien qu'on a là un modèle de prière. On a là ce que Dieu veut voir dans la manière de prier, dans le contenu, dans l'attitude, etc. Et donc on avait vu hein, l'importance bien de s'adresser au bon interlocuteur, au Père, à avoir la bonne disposition, hein, celle de confiance, de foi, d'humilité, et d'avoir le bon contenu également. Et donc ce matin, j'aimerais continuer sur le thème de la prière, et je vous invite à trouver dans vos Bibles le passage de 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, et nous lirons les versets premiers jusqu'au verset 8. 1 Timothée chapitre 2, verset premier. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alors, vous le savez, cette épître à Timothée, comme la seconde et même l'épître à Tite, ce sont des épîtres qu'on appelle pastorales. C'est-à-dire que Paul les adresse à des serviteurs de Dieu qui ont une charge pastorale dans l'église du Seigneur. Et ces lettres, c'est vrai, traitent surtout hein, de ce travail d'organisation dans l'église locale, du travail du pasteur, de ses qualifications, etc. Et quand Paul écrit à Timothée ici, il attire son attention sur des problèmes par rapport à des faux enseignants, sur la manière donc de se conduire dans l'Église. En tant que pasteur, il aborde les sujets de l'adoration, de la louange, les relations hein, dans l'Église entre eh bien des maîtres, des esclaves, et sur aussi le danger hein, que représente le matérialisme pour le chrétien. Et il encourage donc Timothée à combattre le bon combat de la foi et de garder hein, ce qu'il a reçu. Et au chapitre 2, on voit cette coordination, hein, cette conjonction de coordination, donc. C'est-à-dire que Paul établit ce qu'il vient de dire dans le premier chapitre, établit un lien, hein, entre ces deux chapitres, entre le bon combat de la foi et l'exhortation que l'on trouve dans ce passage. Et l'exhortation qu'il apporte, c'est quoi? C'est qu'avant toute chose, nous devons apporter des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Et dans ces versets, donc, Paul présente la prière comme étant vraiment le premier moyen que l'on doit employer pour mener à bien ce combat spirituel, n'est-ce pas? Comme Paul le souligne, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, hein, contre ceux qui sont actifs contre l'œuvre du Seigneur. Et je crois sincèrement qu'on peut voir actuellement à travers le monde, justement, la main de l'adversaire hein, dans ce qui se produit actuellement, de voir que, il y a des choses terribles qui se produisent, il y a des guerres, il y a la méchanceté. Et on sait que l'adversaire est actif dans ce sens-là. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous soyons également engagés dans ce bon combat de la foi, actifs dans ce combat spirituel par le moyen de la prière. Mais voilà, il fait ce lien donc entre ce premier chapitre et ce deuxième chapitre et montre que la prière, donc c'est bien l'arme spirituelle hein, que nous devons employer. Et nous sommes, par le biais de la prière, également engagés à prier pour certaines choses. Ce passage apporte un sujet hein, qu'il nous faut, pour lequel nous devons prier. Il y a d'autres passages dans les Écritures qui nous montrent quelles autres choses hein, nous devons également prier. Mais ici, il y a ce lien avec hein, l'évangile de Christ. Pourquoi? Le verset 3 nous dit que de prier pour tous ces hommes et tous ces dirigeants, c'est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut, hein, la volonté de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Notez bien que dans cette exhortation que Paul apporte, il met ici la priorité de notre prière. La priorité de notre prière, avant toute chose, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce que je vous encourage vraiment à faire. Et quand il écrit à Timothée, c'est vrai, il s'adresse à un pasteur. Mais vous savez, ces épîtres pastorales ne sont pas juste limitées aux pasteurs. Ces épîtres pastorales sont pour tous les chrétiens. L'enseignement qui se trouve, c'est pour nous tous. Et donc, avant toute chose, nous devons apporter des prières à Dieu pour le salut des âmes. Et ça, c'est la priorité de notre prière. Et donc, j'aimerais souligner juste plusieurs choses dans ce passage qui vont nous aider à mieux comprendre l'importance de ces prières et pourquoi Paul eh bien, nous exhorte à le faire. Je crois que la première chose pour que nous puissions donc apporter ce genre de prière pour le salut des âmes et d'en faire notre priorité, c'est qu'on doit comprendre que nous pouvons et nous devons prier de manière diverse, n'est-ce pas? Paul, ici, dans cette épître à Timothée, il exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Et donc là, nous avons quatre formes de prières qu'il convient de pratiquer pour chacun d'entre nous personnellement, mais aussi dans l'Église. La supplication, la prière, l'intercession, hein, les requêtes et l'action de grâce. Et on verra que même ces trois premiers termes sont souvent interchangeables, hein, ils sont synonymes. Hein, souvent, quand on va dire « je vais prier », on apporte des requêtes. Hein, si on va intercéder, on sait qu'on est en train de prier. Hein, et donc, ces mots sont quasi synonymes, mais il y a des nuances importantes qui existent et qu'il nous faut voir pour mieux comprendre hein, ce que cela revêt comme importance pour nos prières. La prière de supplication, hein, le mot que Paul emploie ici dans le grec, c'est un mot qui est, à sa racine, signifie plaider. Même ça a le sens de presque de mendier. Hein, et ce mot renferme la notion d'urgence également. Je crois que l'idée, c'est un peu comme cette parabole. Hein, de la femme qui va frapper à la porte du juge et insister, et insister, et insister, et insister. Hein, il y a une urgence pour elle. Et pour nous, dans nos prières, la supplication, elle revêt cette forme-là. On reconnaît qu'il y a une urgence de prier pour cela. On reconnaît que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on plaide avec Dieu pour que Dieu, eh bien, accepte de répondre favorablement à cette demande. Et ce mot dans le grec signifie également de parler de quelque chose qui manque. Hein, on apporte un besoin à Dieu. C'est quelque chose dont on est privé, dont on est dépourvu. Puis, Paul lui mentionne la prière, hein, cette prière générale, hein, cette pétition que l'on apporte à Dieu. Et on retrouve les mêmes notions que dans le premier mot employé par Paul dans le grec. Mais ici, ce terme grec qui est employé, il est exclusivement employé dans une prière adressée à Dieu. Et la raison pour ça, c'est que le mot lui-même contient cette notion d'adoration, hein, de révérence, de respect. On sait, par exemple, en français, on peut utiliser le mot prière pour toutes choses, hein, prière d'enlever vos chaussures, d'essuyer vos pieds, hein, bon, voilà. Mais là, le mot qui est employé, c'est vraiment cette requête, cette adresse à Dieu spécifiquement, avec l'idée et la notion d'adorer Dieu par cela. Et ensuite, nous avons cette prière de requête ou d'intercession. Et le terme que Paul emploie ici dans ce passage, c'est un terme qui n'apparaît que deux fois sous cette forme dans le Nouveau Testament. Donc ici, et un peu plus loin au chapitre 4 et verset 5. Et c'est l'idée d'aller à la rencontre de quelqu'un, d'avoir un entretien, une entrevue, une conversation, mais en faveur d'une autre personne. C'est-à-dire que ici, la prière d'intercession, c'est, bon, par exemple, hein, on a un frère qui a un besoin spécifique, que ce soit un besoin physique, matériel, spirituel, eh bien que nous, hein, en tant que chrétiens, nous puissions adresser une prière à Dieu en faveur de ce frère qui est dans le besoin. Et ça, c'est le terme qui est employé ici par Paul, cette idée donc d'intercéder pour quelqu'un. Maintenant, la forme verbale, nous la retrouvons également dans le Nouveau Testament, notamment pour souligner l'un des aspects du Seigneur Jésus-Christ actuellement, et même de l'Esprit Saint. En Romains chapitre 8 et verset 26, il nous est dit que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, hein, en notre faveur. C'est ce mot-là qui est employé. Dans Hébreux chapitre 7, hein, verset 25, il parle ici, hein, du ministère de Christ pour nous, hein, en parlant que Christ, hein, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc c'est cette idée d'apporter quelque chose à Dieu en faveur d'une autre personne. Donc ce n'est pas une prière qui est, on va dire, personnelle pour nous-mêmes, ce n'est pas une requête qui est pour nous-mêmes, mais pour les autres. Et donc, à cette prière, hein, vont s'associer les idées, bien sûr, d'empathie, de sympathie, de compassion, hein, d'engagement pour le prochain à travers la prière. Et puis finalement, on a cette action de grâce, cette reconnaissance, ce remerciement. Et donc, Paul, ici, hein, termine cette liste de prières par cette action de grâce que nous devons apporter à Dieu. Et là encore, hein, ce terme que Paul emploie, c'est lié à la grâce de Dieu. Hein, en grec, c'est le mot eucharistia, hein, l'Église catholique emploie ce terme pour parler du repas du Seigneur, hein, l'Eucharistie. Et dans ce mot, hein, on a charis. Charis, c'est le don. Hein, c'est quelque chose que Dieu, hein, a fait de bon pour nous. Et on exprime de la reconnaissance à Dieu pour cela. Et donc Paul nous exhorte à employer ces quatre formes de prière, mais ici dans un domaine assez spécifique. Et la deuxième chose que nous devons voir ici dans ce passage, c'est que prier constitue, eh bien, le premier acte d'évangélisation quelque part. Ainsi, on regarde encore une fois ce passage, Paul souligne que, voilà, Dieu veut que l'on prie ainsi pour tous les hommes, pour ceux qui sont en position d'autorité, hein, dans notre vie, hein, les dirigeants, etc. Et de le faire avant toute chose, notant encore une fois la priorité, hein, l'importance capitale de ces prières que nous devons élever à Dieu, c'est parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc il y a ce lien entre ces prières-là et l'évangélisation. L'Église, de manière évidente, a pour mission l'évangélisation. Notre but, notre objectif, est toujours de glorifier Dieu, de l'honorer. On le fait en se réunissant, en chantant, en priant, en ouvrant la parole de Dieu. Mais le fait de glorifier Dieu va se faire aussi dans l'obéissance à ce qu'il nous demande d'être et ce qu'il nous demande de faire. On connaît tous le passage de Matthieu 28, les versets 19 à 20. Le Seigneur donne ses dernières consignes à ses disciples, n'est-ce pas? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, hein, parce que l'évangélisation, c'est pas simplement, tiens, je te partage Jésus-Christ, mais c'est aussi une fois que la personne a accepté Christ, de l'enseigner, de l'aider à comprendre ce que Dieu a prévu pour la vie de chaque croyant, l'importance de l'Église dans la vie du croyant, toutes ces choses-là. Nous avons à les transmettre. Et ça, c'est la mission de l'Église. Nous sommes tous entourés de personnes dans notre vie qui ignorent qui est Jésus-Christ. Ils ont peut-être une vague idée, certains ne connaissent pas du tout, mais ce que nous savons, c'est que, comme la Bible nous l'enseigne, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et que Christ nous a appelés, nous, ses disciples, à être une lumière dans ce monde de ténèbres, à être ceux qui, oui, par notre vie, notre manière de vivre, sera un témoignage pour les autres, mais pas seulement. Nous sommes appelés à communiquer, nous sommes appelés à transmettre et à partager la foi que nous avons. Et nous sommes donc entourés de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, entourés de personnes qui sont complètement ignorantes au sujet de leur situation spirituelle et ignorantes au sujet de ce que Christ a fait pour eux. Et donc tout chrétien peut, mais doit aussi participer à cet effort d'évangélisation, cette mission de l'Église. Alors en tant que disciples de Christ, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors Paul nous montre ici que la première des choses, et la priorité des choses, avant toute chose, prier. Et Paul nous montre que prier est quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas la moindre des choses qu'on peut le laisser penser, mais c'est ici la chose la plus simple. La plus simple que chacun d'entre nous pouvons faire, c'est de prier pour le salut des personnes que nous connaissons. Prier pour le salut des âmes perdues dans ce monde. Et donc là, c'est quelque chose qui est à la portée de tous. C'est quelque chose de simple. Il n'y a pas besoin de se lever, hein, même de sortir de sa maison. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en théologie ou suivi une formation dans l'évangélisation ou quoi que ce soit de ce genre-là. Ce que nous voyons, c'est que la prière est la première chose et la plus simple des choses, mais pas la moindre des choses que nous puissions faire dans l'œuvre d'évangélisation. Or, pour qui devons-nous prier? Dans cette exhortation, Paul insiste que nous employons donc ces quatre moyens de prière et que nous les adressions à Dieu, et bien pour tous les hommes, et même pour ceux qui dirigent. Il nous exhorte à faire des supplications, des prières, des intercessions et également des actions de grâce. Et c'est déjà ce que beaucoup d'entre nous faisons déjà. Lorsqu'on se réunit ensemble pour prier, nous avons une liste de prières, et dessus, il y a plusieurs requêtes concernant le salut de la famille d'un tel. On prie pour le salut de la famille d'Axel, pour la famille de Josh, etc. Et on prie pour que, oui, ces personnes puissent connaître Christ, puissent connaître sa grâce. Mais voilà, lorsqu'on se réunit pour prier, je sais que souvent, les sujets de prière que l'on va avoir le plus souvent sont des sujets de prière qui concernent des besoins, on va dire, bien plus terre à terre. Ça va être la santé, ça va être les études, ça va être l'emploi, ça va être peut-être plein de choses comme ça. Et c'est bon de prier pour ces choses-là. Mais ce que nous ne devons pas négliger, c'est que Paul nous dit ici qu'avant toute chose, c'est la priorité de prier pour tous les hommes, pour toutes les âmes perdues. Et donc, on ne doit pas se limiter dans nos prières. On ne doit pas négliger de prier pour ces âmes perdues. Et notez bien que ces prières-là incluent tout le monde. On doit prier pour tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit donner les noms de toutes les personnes que l'on connaît, etc. Je crois qu'on peut prier, oui, d'une manière assez générale. Seigneur, déjà, aide-moi dans mon témoignage, par rapport à ma famille, par rapport à mes amis, mes camarades de classe, collègues de travail, etc. Paul, ici, il parle que tout autour de nous, nous devons être conscients que les âmes sont perdues. Que tout autour de nous, il y a des personnes pour lesquelles nous devons prier. Et prier en priorité et de manière constante, dans la persévérance, n'est-ce pas? La prière, vous l'aurez noté ici, elle n'est pas élitiste. Je ne me limite pas juste à ce que moi j'aime. Elle n'est pas ni même nationaliste. On va prier, oui, Seigneur, on prie pour le salut des âmes en France parce que nous aimons notre pays, mais nous sommes conscients que les âmes perdues, il y en a à travers le monde. Et que nos prières ne peuvent pas être ainsi, si sélectives. Au contraire, Paul, il affirme que nous devons prier pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne pour laquelle nous ne devons et nous ne pouvons pas prier par rapport à leur salut. Paul nous exhorte même à prier pour les dirigeants du monde. Et je crois que même à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens hein, qui, leur prière par rapport aux dirigeants qui existent, c'est « Seigneur, hein, qu'il soit retiré, qu'un autre prenne sa place ». Mais notre prière, avant tout de choses, pour ces dirigeants que nous avons, que vous les appréciez ou non, que vous soyez d'accord avec eux ou non, malgré qui ils sont, malgré ce qu'ils disent, malgré ce qu'ils font, nous devons prier pour leur salut. Et cette exhortation, elle est, oui, fascinante. Fascinante parce qu'on sait qu'à l'époque où Paul écrit ces mots à Timothée, c'est Néron qui règne. Et on sait que Néron, ça n'a pas été un empereur très sympa, n'est-ce pas? C'est beaucoup d'historiens vont le souligner. Hein, c'est quelqu'un qui était complètement fou. C'était quelqu'un qui était d'une cruauté incomparable. Et donc, quand Paul il écrit à cette époque-là, il écrit à ces chrétiens qui sont sous l'oppression, qui sont pour certains déjà persécutés, et il dit « Priez pour eux ». Priez pour leur salut. À cette époque, oui, il y avait peu, voire pas du tout, de dirigeants chrétiens dans le monde. Mais Paul leur demandait de prier pour ces dirigeants païens, inconvertis, et même ennemis de la foi chrétienne. Priez hein, pour le roi sous lequel vous souffrez, priez pour le dirigeant avec lequel même vous êtes en désaccord, priez pour le dirigeant que vous désapprouvez. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés, n'est-ce pas? Nos prières ne doivent-elles pas s'aligner avec la volonté de Dieu? C'est ce que le Seigneur Jésus avait enseigné à ses disciples, que ta volonté soit faite au ciel et sur terre, n'est-ce pas? Eh bien, nos prières pour nous, nos dirigeants doivent également s'aligner avec la volonté de Dieu. L'apôtre Pierre, dans sa seconde épître, au chapitre 3, verset 9, nous rappelle que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La volonté de Dieu, c'est que tout être humain puisse connaître sa grâce et l'accepter par la foi, cette foi qui mène la personne à la repentance. La repentance, c'est de se retourner, hein, de prendre une direction complètement à l'opposé du péché. Hein, on se détourne du péché pour regarder à Dieu. Hein, c'est l'idée du mot repentance. Il y a quelque temps de cela, hein, notre frère Philippe avait prêché sur le passage dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, où là encore, on voit que ce soit dans l'ancienne alliance, tout comme dans la nouvelle alliance, la volonté de Dieu demeure inchangée. Il dit « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» La volonté de Dieu n'a pas changé pour l'être humain pécheur. La volonté de Dieu, c'est que tous viennent à la repentance. Et je sais que à l'heure actuelle, on voit de la violence partout. La violence verbale, la violence physique, à cause de désaccords culturels, religieux, politiques, toutes sortes de divergences qui amènent les gens à cette violence que nous voyons. Et même certains chrétiens, et je dirais peut-être même entre guillemets chrétiens, qui se réjouissent de la mort d'un tel dirigeant ou d'un autre dirigeant, parce que pour eux, c'est un homme mauvais. Faisons extrêmement attention à la manière dont nous regardons le monde et dont nous regardons aux pécheurs autour de nous. Pourquoi ? Parce que, un, nous étions de leur nombre, nous étions pécheurs perdus, avant que la grâce de Christ nous amène au salut, n'est-ce pas ? Et à la rédemption. Mais c'est surtout ici que la volonté de Dieu, elle est claire. Il veut que tous les hommes viennent à la repentance. Il veut que tous les hommes puissent bénéficier de sa grâce. Qui sommes-nous donc pour prier autrement que pour le salut de ces personnes que peut-être vous n'appréciez pas. Peut-être c'est des personnes mauvaises, extrêmement dangereuses, et on est d'accord là-dessus. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'ils se repentent. Et nos prières doivent aller dans ce sens-là. Donc le fait de ne pas subir l'oppression, ni même la persécution de la part de nos dirigeants aujourd'hui dans notre pays, ne doit pas nous démotiver de prier pour eux. N'est-ce pas? Les instructions de Paul s'appliquent à ceux d'entre nous, même qui ne subissent pas de persécution physique. Nous devons prier pour nos dirigeants, et même pour tous les dirigeants à travers le monde. Nous devons prier pour tous les hommes, pour leur salut avant toute chose. Si vous êtes un disciple de Christ, priez pour notre président. Quelles que soient vos opinions sur sa politique, aimez-le et priez pour lui. Et pas seulement pour lui, donc, mais pour tous ceux qui ont des responsabilités, même dans notre pays, hein, pour les ministres, les sénateurs, les députés, hein, les préfets, les maires. Hein, de même, nous devrions prier pour les dirigeants des autres pays, des pays qui actuellement connaissent la terreur, la violence, de la guerre. Priez pour que des âmes puissent être sauvées. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous sommes vraiment actifs dans ce genre de prière? Est-ce que nous sommes vraiment persévérants dans le fait de prier pour tous les hommes, pour nos dirigeants, pour leur salut? Ou bien est-ce qu'on regarde les infos et on se laisse dominer par la frustration et la colère contre les dirigeants? Paul, il dit « prier ». Mais il ne dit pas de prier pour que Dieu anéantisse Néron. Il ne dit pas de prier pour que Néron soit changé par quelqu'un d'autre, mais prier. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes viennent à la repentance prier pour son salut. Et là, donc, on aborde des prières assez spécifiques, n'est-ce pas? Il nous dit aussi pour qui prier, mais il nous dit donc également pourquoi prier. Regardez le verset 2. Il dit, nous devons prier pour nos dirigeants, pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Je crois que c'est l'aspiration de tout être humain, c'est l'aspiration de tout chrétien que de pouvoir vivre dans la paix, dans la tranquillité, hein, comme Paul le mentionne ici. Ce que Paul disait ici, oui, est complexe. Un des objectifs de nos prières, oui, c'est la paix, même au milieu des persécutions. Nous prions pour que nos dirigeants, pour nos dirigeants, de manière à promouvoir la paix, de promouvoir la liberté, qui nous permet à nous, en tant que chrétiens, de pouvoir nous réunir, de pouvoir prêcher la parole de Dieu, de pouvoir la partager et d'évangéliser, et de permettre donc à l'Église de s'épanouir. Et c'est un épanouissement qui ne s'oppose pas à l'État. Mais il faut reconnaître que l'État que nous avons protège aussi cette liberté que nous avons de pouvoir librement partager notre foi et nous réunir. Au 1er siècle, à l'époque où Paul écrivait, il y avait ce qu'on appelle la Pax Romana, la paix romaine. Et on pourrait se dire que, oui, alors les Romains, ils ont envahi le monde et c'était quelque chose de terrible. Beaucoup de personnes ont souffert. Et on est d'accord sur cette partie de l'histoire. Mais il y a une chose aussi que nous devons voir, c'est que même à travers les méfaits des êtres humains, Dieu peut utiliser ces choses-là pour que son plan s'accomplisse. Ce qui s'est produit avec la conquête romaine et cette Pax Romana, ça a été aussi la construction de routes à travers l'Empire romain. Et ces routes ont eu un impact majeur dans la propagation de l'Évangile. C'est-à-dire que ça a permis aux disciples, aux apôtres, aux évangélistes, d'aller à différents endroits du monde romain, de pouvoir prendre ces routes-là et d'aller dans les villes proclamer l'évangile. Ce que l'on voit dans les Écritures, c'est que l'évangile peut se répandre même dans la persécution, malgré la persécution. Mais dans un contexte de paix, les chrétiens, les églises, peuvent librement vivre l'appel du Christ et témoigner de sa vie aux yeux de tous. Aujourd'hui, en France et dans beaucoup de pays où nous avons la liberté, On peut aisément aller dans la rue et puis parler à quelqu'un, donner une Bible ou un traité, et de partager l'évangile. Nous pouvons le faire. D'autres à travers le monde n'ont pas cette liberté-là. Et c'est pour ça que on vous encourage à continuer de prier pour nos frères et sœurs qui vivent dans ces pays où la persécution est réelle. Mais voilà, Paul nous dit de prier pour ces dirigeants afin que, même s'ils nous persécutent, même si nous vivons sous leur autorité, nous puissions mener une vie paisible, tranquille, en toute piété et dignité. Imaginez l'hostilité qui pourrait naître, eh bien, dans les cœurs de chrétiens envers les dirigeants à cause de la persécution. On pourrait comprendre que, oui, c'est une réaction naturelle que d'en vouloir à ceux qui persécutent. Mais encore une fois, Paul nous dit, priez pour le salut de ces hommes-là. Nous ne devons pas prier seulement pour avoir la paix, mais prier pour même ceux qui persécutent, et que par l'évangile, bien la paix puisse être présente pour de nombreuses personnes. Et c'est pour ça que on a un devoir en tant que chrétien de prier pour eux, même un devoir en tant que chrétien d'être soumis aux autorités. Hein, Paul en parle dans Romains, il en parle également dans Tite, hein, chapitre 3, hein, le fait d'être soumis aux magistrats, aux autorités. Et encore une fois, hein, ça c'est parce que c'est la volonté de Dieu que par notre témoignage, eh bien des âmes puissent être arrachées de la condamnation éternelle. Donc avant toute chose, priez, priez pour tous, priez pour les autorités qui nous gouvernent. Et l'objectif de ces prières, c'est non seulement la facilitation et la propagation de l'évangile, mais c'est donc pour que nous puissions, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, vivre dans la paix, vivre paisiblement et de pouvoir faire l'œuvre du Seigneur avec liberté, n'est-ce pas? Si on a du mal à accepter de prier pour les perdus, et en particulier ceux en autorité, ben je vous invite à considérer encore une autre chose ici, en lien avec notre devoir de prier pour tous les hommes, pour leur salut, même pour les dirigeants, pour leur salut. C'est que de prier de cette manière-là glorifie Dieu. Et je rappelle, on peut prier. Dans l'église, dans notre temps de culte le matin, et je regrette que si peu saisissent cette occasion pour prier d'ailleurs, hein, parce que c'est un moment de pouvoir glorifier Dieu, c'est un moment de communion ensemble avec le Seigneur dans la prière, que ce soit lors des cultes, que ce soit en famille, que ce soit en solo, ben Dieu veut que nous prions, que nous intercédions, que nous apportions à lui ses pétitions et ses actions de grâce pour tous les hommes, pour que l'évangile puisse se répandre, que ces hommes puissent connaître la grâce de Dieu. Mais voilà, si on a du mal à prier comme cela, il nous faut considérer une autre motivation peut-être. Une motivation, on va dire peut-être un peu plus théologique, mais qui doit nous amener à prier ainsi. Paul nous a donc indiqué pour qui prier, pourquoi prier, mais qu'est-ce qui doit nous motiver à prier ainsi? Hein, si on a du mal à prier pour le salut des hommes, il y a quelque chose qui va pas. Et peut-être qu'on a besoin de revoir certaines choses par rapport à la motivation derrière ces prières. Parce que si on prie pour avoir la paix, ouais, c'est une bonne chose, mais c'est assez, quelque part, centré sur l'homme et non plus sur Dieu. Prier pour le salut des hommes glorifie Dieu. Hein, Paul nous dit qu'au verset 3, c'est quelque chose qui est bon et agréable devant Dieu, notre Père, notre Sauveur, hein, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ces versets-là, 3 et même jusqu'à 6, hein, on pourrait lire, sont de beaux versets. Il y a un auteur chrétien qui, en commentant sur ces versets, il dit, non seul, ces mots contiennent la clé non seulement du Nouveau Testament, mais de toute la Bible, car ils cristallisent en une phrase l'essence même du message de la Bible. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et c'est là le témoignage rendu en son propre temps. En résumé, la motivation qui doit être la nôtre, la motivation qui nous pousse à prier pour le salut de tous les hommes, y compris nos dirigeants, c'est le fait que l'amour que Dieu a pour le monde est réel. Et ce même amour qu'il a pour moi, c'est ce même amour qu'il a pour chacun d'entre nous, c'est le même amour qu'il a pour chaque personne qui passe devant cette vitrine, chaque personne que nous croisons au quotidien, cet amour est le même. Dieu nous aime tous au point où Christ est venu dans ce monde et il a donné sa vie. Il a donné sa vie, il a connu l'ignominie, il a connu la mort, il a connu la souffrance physique, il a connu toutes sortes de choses sur la croix. Alors qu'aucun de nous ne méritions une telle grâce de sa part. En pensant à ça, je repense à ce passage que vous connaissez tous dans Ésaïe 53, hein, qui parle justement du Messie, comment il était méprisé, abandonné des hommes, hein, comment ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Hein, on l'a considéré comme puni, frappé de Dieu, hein, mais il a été blessé pour nos péchés. Il a pris sur lui nos iniquités, brisé pour nos iniquités. Et tout ce que Christ il a fait sur la croix pour chacun d'entre nous, il l'a fait par amour pour nous. Paul nous présente ici au moins trois aspects différents de cette motivation à prier de cette manière-là. Un, c'est la volonté de Dieu. Je crois que intrinsèquement, chaque chrétien qui vraiment a cette relation avec le Seigneur et qui cherche à plaire à Dieu, eh bien, il va chercher à accomplir la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Si la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, eh bien, la moindre des choses, c'est que nous prions dans ce sens-là. Donc, lorsqu'on commence à prier pour le salut de toutes sortes de personnes dans le monde, que ce soit juifs ou non-juifs, amis ou ennemis, que ce soit des personnes de droite, du centre, gauche et même de tous les extrêmes politiques que vous voulez, que ce soit des athées, que ce soit des religieux, lorsque nous prions pour le salut de ces personnes-là, nos prières automatiquement s'alignent avec la volonté de Dieu. Et c'est ce que nos prières doivent être, toujours s'aligner à la volonté de Dieu. Il est important de bien comprendre ce que ça signifie, ce que ça ne signifie pas également. Lorsque nous prions ainsi, ça ne signifie pas que toutes les personnes vont être sauvées. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, eh bien, donne le choix à chaque personne d'accepter sa grâce ou de la refuser. Et c'est vrai que certains vont utiliser ce passage, hein, pour dire, ben, Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés, ben, tous les hommes seront sauvés si c'est sa volonté. Et je crois qu'il y a un problème de compréhension entre, on va dire, les décrets que Dieu proclame et vont s'accomplir, et ensuite la volonté de Dieu. Et comprendre que oui, Dieu est souverain en toutes choses, mais que dans sa souveraineté, parce que c'est un Dieu qui est saint, c'est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu qui est amour et qui veut manifester sa grâce à tout être humain. Il ne force personne. Personne à accepter. C'est la responsabilité de chaque être humain. Et ça ne signifie pas non plus que, bah, par notre prière, quelque part, on va contrecarrer la volonté d'une personne. Alors, ce qu'on prie pour le salut des autres, il faut bien comprendre ce que ça sous-entend. Ça sous-entend que nous prions le Seigneur pour que, eh bien, lui, il permette, eh bien, une situation favorable, un, à ce que l'évangile puisse être présenté, deux, à ce que l'évangile puisse être compris, mais aussi nous pouvons prier pour que, bah, cet évangile, hein, puisse vraiment pénétrer non seulement l'esprit, mais aussi le cœur de la personne. Et ça, c'est la décision de la personne. On a la parabole, hein, dans Matthieu 13 avec le semeur et les différents terrains. Et ce que je comprends, c'est que, ben, quand on prie pour le salut des âmes, et qu'il y a des semences qui vont être là sur au milieu des rochers, au milieu des ronces, ou être mangées par les oiseaux du ciel, etc., je crois qu'il faut comprendre qu'on peut prier pour que le Seigneur, eh bien, par exemple, retire les ronces. Hein, qui donne un environnement favorable pour que l'évangile puisse être prêché et reçu. Ça, nous pouvons prier. Ça, c'est ce que Dieu veut que nous prions lorsque il veut que nous prions pour que tous les hommes, hein, puissent connaître la repentance. C'est sa volonté, mais on sait que, eh bien, Dieu laisse le libre arbitre à chaque être humain d'accepter ou de refuser cette grâce. Et donc, quand on va prier dans ce sens-là, il faut comprendre que nous prions avant tout parce que c'est la volonté de Dieu que nous prions, comme cela, et ainsi. Parce que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes viennent à la repentance. Mais il faut aussi comprendre que quand nous prions ainsi, nous ne devons pas être surpris, nous ne devons pas être découragés de ce que certains vont refuser cette grâce, malgré nos prières. Ça, il faut en être conscient. On peut prier pendant des années pour le salut d'une personne avant qu'elle ne vienne au Seigneur. On peut prier pendant des années pour le salut d'une personne qui ne viendra jamais au Seigneur. Mais ça n'empêche pas que notre devoir, c'est de prier dans ce sens-là. J'ai déjà partagé dans le passé l'exemple de personnes, quand j'étais enfant et dans le ministère de mes parents à Thionville, des personnes pour lesquelles on priait. Et on priait, mais on se disait, bon. Il y a vraiment très peu de chances que cette personne vienne au Seigneur. Connaissant le caractère de cette personne, son attitude vis-à-vis du conjoint, vis-à-vis de l'Église, etc., on priait dans ce sens-là. Mais aussi avec cette réalité que il se peut très bien que ce soit jamais. Et il y a des personnes comme ça. Même dans ma famille, une de mes tantes, on était convaincus que de toutes les personnes dans la famille, elle serait vraisemblablement la dernière à venir au Seigneur par rapport à l'attitude qu'elle avait envers nous et envers Christ. Et c'était une des premières. Ça a pris des années, mais c'était une des premières. Ce qui veut dire qu'on n'a aucune certitude qu'une personne va venir au Seigneur, mais Dieu veut que nous prions pour cela. Dieu, il veut voir que nous, nous nous confions en lui. Il veut voir que nous, notre désir s'aligne avec sa volonté, que notre désir, oui, c'est de les voir être arrachés des flammes de l'enfer. Tout comme Paul était prêt à accepter d'être anathème pour que, eh bien, ses frères de sa nation d'Israël puissent connaître la grâce de Christ. Il était prêt à abandonner lui-même son salut pour que eux puissent connaître la grâce de Dieu. Vous imaginez à quel point Paul aimait ses compatriotes? Nous sommes appelés à aimer notre prochain. Et je crois que la plus belle et la plus grande des manières possibles, c'est déjà de prier pour leur salut. Mais vous savez quoi? Prier pour leur salut et en même temps, eh bien, pour nous, de ne pas nous mettre à la disposition de Dieu pour que l'évangile puisse être partagé. Hein, on peut prier pour le salut des hommes, on peut prier, Seigneur, oui, envoie plus d'ouvriers, mais si nous-mêmes, on se dit, non, moi, je peux pas, ou je ne veux pas, ben, je suis pas certain que ces prières-là aillent vraiment dans le sens que Dieu y veut voir. Dieu y veut voir de notre part que, ben, oui, nous sommes disposés. Hein, que si Dieu nous appelle, oui Seigneur, je vais le faire. C'est pour nous de saisir les occasions, comme beaucoup le font, quand il y a une personne qui a des questions au sujet de Dieu, que nous puissions présenter l'évangile à cette personne-là. Et peu importe qui nous sommes, peu importe le nombre d'années que nous avons en Christ, nous avons tous le moyen d'expliquer ce que nous avons vécu, de donner juste notre témoignage. Voilà qui j'étais avant, et j'ai compris ça au sujet de Christ. Et il a changé ma vie. Ça, c'est la manière la plus simple de présenter l'évangile, n'est-ce pas? Mais le fait, donc, de prier dans le sens que Dieu y veut, de prier pour ces personnes qui, même pour nous, hein, seraient des personnes détestables et de prier pour leur salut, c'est l'amour que Dieu nous demande d'avoir pour notre prochain. De prier pour leur salut. La motivation, encore, de prier dans ce sens-là que nous devrions avoir, c'est que si on prie pour que tous les hommes puissent être sauvés, c'est parce que nous voulons que tous les hommes puissent connaître la grâce de Dieu, puissent également apporter gloire et honneur à Dieu. Hein, Paul, il dit, il y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu. Et cette affirmation ici au verset 5, hein, c'est une affirmation qui apparaît assez simple dans ce passage, mais ça a une grande importance. Parce que le fait que Dieu veuille que tous les hommes viennent à la repentance, c'est pour qu'ils puissent le connaître lui. Et on comprend que quand nous avons accepté cette grâce de Christ, Dieu a fait des choses extraordinaires déjà dans notre vie. N'est-ce pas? Il nous a transformés de perdus à sauvés. Il nous a transformés d'ennemis à enfants. Il nous a transformés de pécheurs à saints. Et tout ça par l'œuvre de Christ, pas par nous, mais par l'œuvre de Christ. Et le fait qu'il nous a appelés à cela. Il a manifesté son amour pour nous et nous a appelés à être participants à sa nature divine. Il nous a appelés à être présents dans sa gloire parce que quand il dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire que ne pouvoir bénéficier de cette gloire de Dieu, ben nous ne devons plus être dans le péché, nous ne devons plus être condamnés par le péché. Et quand nous sommes sauvés, quand nous serons dans la présence de Dieu, nous serons dans la présence de sa gloire. Et ce sera quelque chose d'extraordinaire pour nous que de pouvoir adorer Dieu d'une manière parfaite. Mais on bénéficiera aussi de cette gloire. Et franchement, quand on pense à cela, ne voudrions-nous pas que, un, déjà pour les êtres humains qui puissent connaître cela, et que pour Dieu qui a fait tout cela pour nous, que bah, toute personne puisse participer à cela et adorer Dieu d'une manière parfaite et de participer à cette gloire au ciel. En fin de compte, notre vie en Christ, notre œuvre pour lui, nos efforts d'évangélisation, c'est parce que nous savons que oui, il y a un seul Dieu, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme, et que ce Dieu mérite notre louange, mérite l'honneur, mérite l'adoration de tous. De tous. Et c'est ce que Paul souligne ici, le fait que nous devons prier dans ce sens-là, parce que Dieu mérite que tous les hommes puissent le connaître et bénéficier de sa grâce. Il faut avancer un peu encore faute de temps, mais ce que je voulais vraiment qu'on puisse comprendre par rapport à ce passage ici, c'est que nous avons une responsabilité en tant que chrétiens. Oui, celle de partager l'évangile. Mais la priorité, c'est déjà d'être dans la prière par rapport à cela. De prier pour que les hommes viennent à repentance. De prier pour qu'il y ait plus d'ouvriers pour aller présenter l'évangile et également récolter ce qui a été semé pour la gloire de Dieu. Mais aussi que dans nos prières, nous ayons cette attitude, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Hein, comme le jeune Samuel, parle à ton serviteur, écoute. Comme l'apôtre Paul, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Chacun d'entre nous, hein, ça peut, oui, on peut se limiter à, je prie, Seigneur, pour le salut. Je prie pour qu'il y ait plus de missionnaires et d'évangélistes, etc. Mais si on prie ces choses-là, encore une fois, sans soi-même se demander, qu'est-ce que moi, je peux faire de plus? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Si nous-mêmes, nous ne sommes pas en train de saisir les occasions qui se présentent à nous pour partager en toute simplicité l'évangile, crois que ces prières, quelque part, vont être vaines parce qu'elles viennent d'un cœur hypocrite. C'est vrai que c'est la priorité, c'est ce que nous devons faire, mais ça ne se limite pas à cela. Et donc la conclusion évidente pour nous, c'est que nous avons tellement, tellement de sujets de reconnaissance envers Dieu. On a tellement de sujets de requêtes que nous pouvons apporter au Seigneur. Mais Paul lui montre bien que la priorité dans tout cela, c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés en tant que chrétiens, en tant qu'Église. C'est que nous vivons dans un monde qui est perdu, un monde qui est dans les ténèbres, un monde qui a besoin de lumière. Et Christ a confié cette lumière à son Église et à chaque croyant. Hein, Christ, il a dit, je suis la lumière du monde. Hein, pendant qu'il était sur terre, je suis la lumière du monde. Mais après, il a dit aussi à ses disciples, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. À quoi sert une lumière si elle est cachée? À quoi sert le sel s'il a perdu sa saveur? C'est-à-dire que oui, nous devons prier pour cela. Mais ne soyons pas hypocrites en nous limitant seulement à prier pour cela, mais aussi à être actifs d'une manière ou d'une autre, actifs dans l'œuvre d'évangélisation. Et pour nous, en tant qu'Église, j'espère qu'un jour nous aurons bien la conviction d'abord, mais aussi les moyens de pouvoir soutenir des œuvres missionnaires, de pouvoir soutenir des évangélistes, hein, et d'être participants dans cette œuvre-là avec eux. Hein, mais ça commence déjà avec nous. Hein, c'est pas pour rien que le Seigneur a dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, hein, dans la Judée et Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous savez, ça, y a un point de départ. Et le point de départ, ça commence avec chacun d'entre nous. Ça commence avec cette Église. Et que Dieu nous aide donc à être fidèles dans ses prières, mais aussi fidèles, hein, à partager l'Évangile autour de nous. Prions.